Bonjour Hélène.
Bonjour Hélène.
Bonjour.
Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui.
Geneviève, bonjour Luciane. Et je suis ravie aussi d'être en connexion directe avec le Brésil, c'est quand même incroyable.
Tu es l'auteur, tu es à l'origine du blog Fabuleuse au foyer. Et on a eu le coup de cœur pour ton blog, pour la fraîcheur du blog, pour la qualité du contenu aussi que tu partages. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour présenter un peu ce que tu fais et qui tu es à nos lectrices?
Alors, ce que je fais et qui je suis. Qui je suis, une fabuleuse. Mais c'est pas, attention, c'est pas prétentieux, puisque je le suis, mais en fait, beaucoup d'autres le sont, mais peut-être ne le savent pas, l'ignorent, ou alors l'oublient trop souvent. Je crois que beaucoup de femmes ont tendance à se mettre des ni niveaux de fabulosité un peu trop haut, mais voilà, c'est un autre sujet. Qui je suis? Je m'appelle Hélène. Je vais bientôt avoir 30 ans. Je suis mariée à David. Il y a bientôt 4 ans, on est devenus parents 2 fois en même temps. Donc on a eu des jumeaux et c'était la tornade, le tsunami, la vague totale. Ça ressemblait pas du tout à ce que je voyais sur Instagram, dans les magazines, dans les pubs Evian, tout ça. C'était genre mais alors pas du tout comme ça. voilà. Et moi-même, je n'étais pas non plus la super maman, toute tendre, toute douce, toute gentille que je pensais que je serais naturellement, puisque je me disais que j'étais quand même quelqu'un de bien, plus ou moins. Et voilà. Et puis, en fait, j'ai commencé à écrire un blog personnel où j'ai commencé à raconter cette vie de nouvelle maman un peu paumée. Et ce blog, étonnamment, a eu un certain écho, puisqu'il y a de plus en plus de personnes, d'abord mes amis, puis les amis de mes amis, et puis des femmes que je connaissais pas du tout, qui ont commencé à m'écrire pour me dire, je me reconnais, j'ai l'impression que c'est moi. Et ce qui était intéressant, c'était que c'était vraiment toutes sortes de femmes. C'est-à-dire, il y avait des très jeunes, des lycéennes, qui m'ont commencé à me suivre et qui me disaient, ah ouais, je sens que je peux apprendre plein de choses ici. Des femmes un peu plus âgées, des femmes beaucoup plus âgées que moi aussi, de la cinquantaine, qui disaient, ah ben moi, mes enfants, ils sont adultes aujourd'hui, mais finalement, je me retrouve beaucoup dans cette histoire de fabuleuse. Et puis, des femmes, voilà, avec enfants adultes, des femmes sans enfants aussi, qui disaient, voilà, moi je suis un petit peu curieuse de ce qui peut bien se passer dans la vie d'une maman, donc je vais essayer d'apprendre, d'avoir des infos. Et elles sont d'ailleurs vraiment les bienvenues sur le site parce qu'en tout cas pour ma part, il y a énormément de choses que j'aurais voulu qu'on me dise avant. Je crois que ça m'aurait aidé.
Moi, c'est
Voilà,
des
donc pour
choses pour
oui.
moi très qui me touchent énormément et qui est vraiment quelque chose qui fait partie de mes valeurs, en particulier pour le blog, c'est que je crois beaucoup à l'enrichissement mutuel de ce que les femmes, d'arrêter de mettre des barrières entre les femmes selon le statut marital. Voilà. Je
Complètement.
crois beaucoup dans les principes des tentes rouges. Je pense que tu connais.
Non.
La transmission de femmes juives qui se passait
Oui.
une tente rouge dans l'époque, la période de la menstruation. Donc, elles se retrouvaient toutes les femmes. Et là, il y a un moment de partage et de transmission. Donc, les célibataires, les jeunes, les mariés, le plus âgé, tout
Le
était
seul critère,
ensemble.
c'était qu'elles étaient pubères, quoi.
Voilà.
D'accord.
Donc, on s'est dit que les femmes célibataires ont aussi intérêt à justement aller regarder du côté de ton blog et d'apprendre, de prendre des permissions de voilà, avant.
Pour avoir d'autres représentations que juste celles des magazines. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans notre podcast, mais finalement, il y a des saisons dans une vie, je sais pas, on peut appeler ça des... J'aime pas trop étapes parce que ça fait penser qu'il y en a une qui est avant l'autre, après l'autre, au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre. Donc j'aime pas trop ce mot-là, mais des saisons. Et finalement, c'est des saisons qui nous challengent, que ce soit une saison de célibat, une saison de couple, une saison avec enfant, une saison où il n'y a plus d'enfants non plus, parce qu'après ils s'en vont. Et là, c'est encore un autre challenge. Mais finalement, ce que ça remue à l'intérieur de nous, en tant que femme. Ben c'est souvent la même chose. Ça touche les mêmes cordes émotionnelles, ça touche les mêmes croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes, sur les autres. Donc finalement, voilà, pour aller dans ton sens, on a vraiment beaucoup à apprendre les unes des autres, quelle que soit la saison dans laquelle on est.
C'est riche, c'est très très riche. Donc tu disais que tout style de femme sont bienvenues et commençaient à te rejoindre, à te suivre.
Oui, voilà. Et puis, assez rapidement, du coup, c'est devenu un site collaboratif avec plusieurs chroniqueuses, ben, justement, toutes différentes les unes les autres, qui avaient chacune des éclairages différents à donner. Et donc, c'est devenu le site des fabuleuses au foyer. Alors, fabuleuses, ben, comme je le disais avant, parce que finalement, nous le sommes toutes, mais nous avons beaucoup tendance à l'oublier. À cause d'une fichue petite bête qui s'appelle le perfectionnisme, qui veut nous faire croire que finalement on est bien quand on est parfaite, mais la perfection n'existe pas, donc on n'est jamais bien. Et donc voilà, ça c'est pour rappeler aux femmes qu'elles sont fabuleuses. Et puis au foyer, parce que je me suis rendu compte que finalement, à partir du moment où on devient mère, même si on n'est pas mère au foyer, on est dans notre foyer à un moment ou à un autre de notre journée. Et en fait, derrière les portes du foyer, il se passe plein de choses dont peu de gens parlent. Et comme personne n'en parle, on s'imagine qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, parce qu'on se dispute avec d'autres conjoints, parce qu'on crie sur nos enfants, parce que on a des inquiétudes démesurées, parce que voilà. Et voilà, le foyer c'est un endroit où se passent les plus belles choses de notre vie, parce qu'on est avec les gens qu'on aime le plus au monde, et en même temps c'est un endroit mystérieux, compliqué, voilà, intense. Et donc voilà, on essaye de parler de cette vie dans le foyer. On dit ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, mais on raconte pas ce qui se passe après derrière les portes du château. Donc chez les fabuleuses au foyer, et on essaye de raconter ce qui se passe derrière les portes du château.
Je trouve que c'est une preuve de confiance, vraiment fabuleux aussi pour ceux qui ne n'y sont pas. Toutes ces lectrices de notre flot qui n'y sont pas encore, pour elles, je pense que c'est vraiment un cadeau que se le faire, de pouvoir avoir d'autres modèles, d'avoir d'autres pistes, d'avoir un autre regard justement sur ce qui se passe.
Surtout que par exemple, pour moi, comme célibataire, encore aujourd'hui, je peux dire que si je suis vraiment honnête, en fait, il y a pas mal de choses qui font flipper dans la vie de famille. Et que oui. Les raisons pour lesquelles je suis encore célibataire aujourd'hui, c'est ces peurs-là qui m'ont retenue.
Mm-hmm. Ouais, et le pire, c'est que je vais même pas pouvoir te rassurer, hein. C'est vraiment flippant.
La différence, c'est que d'autres, c'est quoi ? C'est que je peux me projeter, que c'est pas juste une peur comme ça dans ma tête. C'est que je vois que ça peut être partagé avec d'autres, que je peux trouver de l'aide.
Tout à fait. Oui. C'est un peu, c'est démystifier en fait, démystifier ces peurs-là.
Ça n'empêche pas, et ça n'empêche pas d'y aller non plus.
Et puis le mot isolé, pour moi, il y a toute une différence de vivre la guerre avec toute notre bande, qui vivent la guerre toute seule.
Complètement, complètement. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes se prennent la tête. En fait, c'est tout simplement qu'elles se sentent seules et qu'elles s'imaginent être les seules à avoir telle peur, à avoir tel stress, à avoir telle difficulté, à avoir. Et en fait, à partir du moment où on se rend compte qu'on n'est pas la seule, on se sent déjà mieux. Donc ça, c'est une première chose. Et du coup, forcément, si c'est une étape ou une saison qu'on connaît pas encore, bah le fait d'avoir lu avant que bah oui, c'est vrai, c'est pas facile, et oui, c'est vrai, ça se passe pas comme dans les contes de fées, bah ça démystifie déjà complètement la chose, et puis on se sent normal, et finalement se sentir normal, ça fait du bien, parce qu'on a toujours cette fâcheuse tendance à s'imaginer voilà, être la seule à traverser telle difficulté.
Ouais. Et culpabiliser un peu.
Exactement.
Si ça se passe si mal, c'est forcément de ma faute.
Exactement. Voilà. Ça, c'est le piège.
C'est que qui me vient à l'esprit en t'entendant, c'est la question d'être vivante. C'est dans notre blog, notre slogan, enfin, ce qu'il y a de plus fort dans tout ce qu'on transmet, c'est la question de renouveler toute notre vision de l'existence, de notre vie, à partir du respect de soi, du respect de l'autre, être vivante, pleinement vivante. Quand on est pleinement vivant,
c'est pas tout lisse, hein, c'est pas tout parfait, c'est pas tout beau, c'est vivant. C'est-à-dire qu'il y a
exactement.
Du bizarre, c'est-à-dire qu'il y a du rififi, ça veut dire qu'il y a des émotions, des tristesses, de joie, des colères, des cris. Enfin, tout ça fait partie de l'existence et c'est très beau parce que je suis vivante. Si tout le monde était bien tout le temps en train de sourire et que tout était hyper nickel chrome et que les enfants étaient sages comme des images, là j'aurais très très peur.
Exactement. Exactement, et en plus je pourrais pas être une inspiration pour les autres parce que ce que je leur donnerais c'est un masque qui leur donnerait envie de fuir, de me fuir, et puis de surtout pas être trop proche de moi parce que ce que je leur renvoie c'est une perfection. Alors que les gens ce qu'ils veulent c'est des histoires vraies, c'est des gens qui se prennent les mêmes gamelles, c'est l'histoire du zèbre quoi, qui se dit j'aimerais tellement être que blanc, et en fait qui oublie que finalement c'est justement dans ses zébrures qu'il est un animal majestueux et magnifique.
Unique. Il n'y a pas un
zèbre unique.
Pareil que l'autre. Ouais.
En plus, voilà. Ils sont tous...
Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot de quand tu étais célibataire?
Alors, quand j'étais célibataire, ça, c'est une question extrêmement difficile parce que je vais être très sincère avec vous, je ne m'en souviens pas beaucoup. parce que, non, mais c'est, en plus, c'est vrai, j'y pense de temps en temps, je me dis, mais c'était comment avant? Et alors, déjà, avant les enfants, j'ai beaucoup de mal à m'en souvenir parce que c'est, voilà, comme je vous dis, la tornade a été tellement énorme que j'ai beaucoup de mal. Et alors, comment c'était quand j'étais célibataire? Alors, ce que je sais, c'est que quand j'étais célibataire, une grosse partie de mes pensées était occupée à me mettre en couple, ça c'est sûr. J'y pensais beaucoup, je me demandais beaucoup avec qui, je faisais mes listes de comment je voulais qu'il soit et tout ça. D'ailleurs, entre temps, j'en ai trouvé un qui
me plaisait bien. Dis plus sur ce que tu faisais, parce que des choses qu'on propose.
C'est une chose d'y penser, parce que moi je peux dire aussi, depuis, ça fait un bail que j'y pense, mais pour passer à l'action, ça fait pas longtemps.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je faisais. Alors, j'avais ma liste un peu, ma wish list, comme on dit en anglais, de comment je voulais qu'il soit. Qu'est-ce que je faisais d'autre?
T'avais vu quelque chose? Enfin, t'avais vu des modèles? T'avais
lu un livre, quelque chose inspiré?
Je crois pas. Sincèrement, j'arrive pas à me souvenir. Je pense que non, ça devait être une. Ça devait être une amie qui m'a donné cette idée, mais je suis sûre de pas avoir lu de livre à ce propos, ça c'est sûr. Mais je pense que c'était un défi qu'on s'est lancé entre copines, de chacune faire sa liste et puis de les comparer après sur voilà ce qu'on attendait. J'avais une vie sociale quand même assez fournie. En fait, je faisais pas mal de choses. Je faisais de la musique dans un groupe. J'étais engagée dans un groupe de jeunesse. J'organisais pas mal d'événements. Je voyageais pas mal. Voilà. Après, comme
tu voyageais en groupe.
En groupe, okay. Avec des copines. Okay. Et en fait, le premier voyage mixte que j'ai fait, il y avait mon mari dans le tas. Donc, je sais pas si c'est ça qui a servi. Mais enfin, on s'est pas mis tout de suite ensemble après ce voyage. Mais c'est quand même la première fois qu'on s'est quand même côtoyé de plus près. Voilà. Après, pour être sincère, quand je dis j'y pensais beaucoup, je passais pas mal de temps aussi à pleurer toute seule dans mon lit, à me dire quand viendra le prince charmant.
Tu pleurais sur quoi?
Ben, j'avais très peur de devenir vieille fille.
Ouais.
Et en fait, j'ai pas eu véritablement de déception amoureuse, mais plutôt la déception de pas trouver chaussures à mon pied, en fait, de me dire que finalement, il y avait quand même pas mal de mecs autour de moi, mais que soit ils étaient déjà pris, soit je les trouvais pas franchement. Au niveau, quoi. Ouais. Et je sais pas, je me demandais où était l'amour. Et
t'étais vraiment en contact avec ce projet-là, avec tes émotions.
Avec tes émotions, ça me plaît parce qu'on a même écrit un article qui parle de ça.
En fait, quand tu en parles, j'ai l'impression que pour toi, c'est juste normal ou ça te semble complètement naturel, mais on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas du tout en contact avec ça.
Ah ouais.
Elles sont comme endormies. On parle beaucoup.
Oui, d'accord.
La voix dormante, il y a quand même beaucoup de femmes dans la trentaine, célibataires, qui sont un peu anesthésiées, endormies. Elles font rien.
Toi, tu l'écris comme ouais. ça.
Mais en fait, bon, alors là, c'est un éclairage complètement personnel, mais moi, je suis croyante, et c'est clair que pour moi, l'aspect couple, ça avait quand même un grand rapport avec ce que je vais appeler, je sais pas, on peut appeler ça le destin, ou un peu une image que j'avais d'une vie qui était comme prévue pour moi par Dieu ou par la vie ou l'existence, ou je sais pas, appelons ça comme on veut. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu dans un mix entre attendre que le destin fasse venir cette vie idéale dont je rêve, et comme être un peu dans cette attente passive, on va dire, parce que je me disais le Dieu en lequel je crois, je pense qu'il a vraiment prévu pour moi qu'un jour je sois en couple, et en même temps de l'autre côté un peu cette action ou cette mise en action ou cette activité, quoi, ce côté actif de me dire, bah oui, mais en même temps, si je veux être avec quelqu'un, il faut que je le trouve, et puis il faut que,
C'est donc, tout naturellement au niveau professionnel, ça se fait naturellement, mais au niveau amoureux, c'est pas du tout évident.
Ouais, c'est vrai. Et puis pourquoi c'est pas évident? Je pense que c'est parce qu'on se dit, ben, si ça me tombe dessus, quelque part, c'est bien pratique, parce que je peux pas vraiment me tromper, ça va me tomber dessus. Et puis je peux pas faire d'erreur, et puis je peux pas.
C'est magique.
Ce sera magique, et puis au moins je suis sûre que je me trompe pas sur sur l'homme en question, sur la façon de faire, sur comment lui prendre et tout ça. Alors que c'est sûr, si je deviens proactive, je vais peut-être me tromper, je vais peut-être prendre le mauvais, je vais peut-être griller des étapes, Donc c'est sûr que ça fait un. Ouais, ça fait peur. Et c'est vrai que moi, je pense que j'étais, comme dit, c'est un peu difficile de retrouver un peu mes préoccupations à ce moment-là. Mais je pense que j'étais un peu entre les deux, quoi, de me dire, de pleurer sous ma couette en me disant, mais c'est pas possible, le destin ou Dieu ou je ne sais quoi ne veut pas me faire trouver l'homme pas forcément idéal, mais en tout cas l'homme qui me conviendra. Et puis d'un autre côté, faut que je me bouge, quoi. J'étais un peu entre les deux.
Ce qui me vient là, en t'entendant aussi, c'est la question d'accompagnement, tu vois. Moi, j'ai été comme ça pendant longtemps. Et c'est quand je me suis décidée de me faire accompagner à 35 ans que les choses sont tout à coup, Donc toutes ces enfin, ça marchait parce que j'ai toujours eu beaucoup de relations, des amoureux, des choses comme ça, et jamais ça marchait pas. Et je me disais, pourquoi ça marche pas? Sans prendre la résolution d'aller me faire accompagner.
Ouais. Pour mais ça. C'est sûr, hein. C'est voilà, ouais. Ouais. Ça a été bon, alors moi ça a pas été mon cas.
Mais toi, des copines.
Oui, c'est ça. Après pour aller complètement dans ton sens, c'est que moi je me suis fait accompagner pour d'autres raisons là pendant toute l'année dernière. Et je me suis vraiment dit que j'aurais beaucoup mieux fait de faire ça bien avant, des années avant, et quand j'étais encore célibataire, parce que je vois les années que j'ai perdues avec mes petits fonctionnements, mes dysfonctionnements plutôt. Et c'est clair, pour aller dans ton sens, tout ce qu'on peut travailler sur soi pour mieux se comprendre qui on est, comment on fonctionne, le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Ça, c'est sûr.
Tout à fait.
Et ça peut faire gagner des années après dans le couple. Ça peut faire gagner des années de prise de tête, de disputes et d'incompréhension. Parce que soi-même, on se connaît pas et on est censé apprendre à connaître le fonctionnement de quelqu'un d'autre qui lui-même se connaît pas non plus. Et ça, c'est galère.
Voilà, c'est deux aveux qui essaient de se donner les choses. Aider à le chemin de la route, je vais t'aider.
Exactement.
Ouais, c'est vraiment un investissement.
Ouais.
C'est un investissement pour ta vie.
Ouais. Vraiment. Et après, je réfléchis en même temps que je parle par rapport à cette question de comment j'étais quand j'étais célibataire, mais je pense que j'avais vraiment cette mentalité de me dire ça ira mieux quand. C'est-à-dire, je me disais toujours que ça ira mieux quand j'aurais trouvé. quand j'aurai trouvé l'homme de ma vie. Après, une fois que je l'ai trouvé, que je savais que c'était lui, bon, ben, ça ira mieux quand on sera mariés, ça ira mieux quand on vivra sous le même toit. Et après, ben, une fois qu'on vivait ensemble, une fois qu'on était mariés, ça ira mieux quand on aura des enfants. Et alors là, quand j'ai eu des enfants, là, j'ai vraiment déchanté. Je me suis vraiment rendu compte.
Qu'est-ce que ça ira mieux?
Alors là, bah oui, bah là, je me disais, ça ira mieux quand ils seront grands, quoi, quand ils seront plus là.
C'est que tu m'as marié.
Mais sauf que, après, ce qu'on entend des femmes plus âgées, c'est qu'elles disent, quand ils s'en vont, on pleure. Donc, moi, je sais plus quoi penser de tout ça. Et donc, du coup, c'est clair que, ben, quand j'étais célibataire, voilà, j'étais vraiment dans cette fuite en avant, vivement, enfin, que le temps passe le plus vite possible pour qu'on arrive à l'étape supérieure. Et je pense que j'ai pas vraiment vécu mon aujourd'hui. Et ça, je suis à peine en train de l'apprendre maintenant, après le tsunami des enfants. Je crois que c'est ça qui a été comme mon réveil, quoi, de me dire, non, mais là, il faut que t'apprennes à aimer ta vie d'aujourd'hui, quoi. Tu peux pas continuer comme ça, fuir en avant, en disant que ça ira toujours mieux. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, plus on fuit en avant, moins on regarde à ce qu'on a vraiment à l'intérieur de soi. Et voilà, je pense, si quelque chose était à refaire, je pense que je choisirais clairement le même homme, vraiment, parce qu'il est fabuleux, même si on se dispute, mais ça c'est tous les coups. Et puis j'apprendrais vraiment. J'aurais voulu avoir appris beaucoup plus tôt à aimer mon aujourd'hui et à vivre à fond mon aujourd'hui. Ça c'est clair.
J'aime ce que tu dis.
Ouais, j'aime aussi. Tout le monde aime.
Voilà, parce que bah, quand on est en couple, il y a des jours, hein, il faut être sincère, où on se dit, j'aimerais bien être seule, quoi. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas ces tensions, ces situations où on se prend forcément la tête, tout parce qu'on est deux êtres humains différents, qui voilà. Et je le dis avec respect et amour, hein. J'aime énormément mon mari, c'est juste qu'on est deux êtres humains et qu'il y a des frictions, des tensions normales. Et c'est sûr que parfois je me dis, j'aimerais tellement être tranquille, j'aimerais tellement être seule. Et là je me dis, mais attends, quand t'étais célibataire, tu voulais qu'une chose, c'était d'être avec quelqu'un. Donc il n'y a pas de situation parfaite. Et apprendre à aimer sa vie telle qu'elle est, mais ça c'est un trésor inestimable, parce qu'on a plus cette sensation d'avoir notre vie qui nous file entre les doigts, quoi, et on se dit, mais qu'est-ce que je peux aimer aujourd'hui et que finalement je n'aurai plus demain. Voilà.
On vient d'écrire un article qui parle dans cette question d'être attaché à sa vie, être attaché à soi, attaché à son projet, de la même manière qu'on est attaché à son couple, à son mari, à ses enfants.
Tout à fait. Tout à fait. Et ouais, c'est beau ce que tu dis, être attaché à soi. Quand on sera en couple, finalement, on sera toujours soi. Ouais. Et quand on aura des enfants, on sera toujours soi. Ça ne changera pas notre nous-mêmes, notre moi, je ne sais pas comment l'appeler. Et c'est important d'apprendre à le découvrir. Et le plus tôt on le fait, le mieux c'est.
Simone Paco qui va rappeler cette loi de vie. C'est interdit, oui, de se mélanger à l'autre.
Oui.
Donc je reste soi et je reste moi jusqu'au bout, quoi. Ni avec mes enfants, ni avec ma famille d'origine, ma mère, ni avec mon mari, je n'ai pas le droit de me mélanger.
Tout à fait.
C'est vraiment le
principe. Tout à fait.
De la chasteté. Enfin, c'est juste distance. C'est la juste distance.
Tout à fait. Tout à fait.
Voilà. Et donc pour. Lectrice, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, vraiment le mot que tu aimerais leur dire pour toutes ces femmes trentenaires qui sont en route vers le mariage, vers la vie de couple, et voilà, si tu voulais un mot à leur dire, ça c'est beau.
Un conseil, un souhait.
Un conseil ou un souhait.
Une blague.
Une blague. Juste.
Alors, merci pour la... Le message que j'aurais envie de laisser aux lectrices de ce blog En Couple Simone, c'est plonger dans la vague. Alors, je sais pas, j'imagine qu'au Brésil, je sais pas si vous êtes loin de l'océan ou pas, mais au Brésil, il y a des grosses vagues. Moi, j'habite depuis peu de temps près de Bordeaux. On n'est pas loin de l'océan. Il y a les grosses vagues de l'océan Atlantique. Et toute mon enfance, mon père nous emmenait à l'océan pour les vacances. Et en fait, ce que j'ai très vite appris, c'est que quand une vague arrive, Si on reste debout et qu'on l'attend en face, elle va forcément nous renverser. Par contre, si on plonge dedans juste au bon moment, c'est-à-dire pas trop tôt, pas trop tard, mais juste quand elle arrive, on plonge, et finalement on passe en dessous, déjà elle va pas nous renverser, et puis ensuite après on va passer en dessous d'elle, et puis du coup on va repasser au-dessus, par derrière, et on va pouvoir nager dessus ou surfer dessus, ou voilà. Dans la vie, il y a des vagues et c'est une super sensation. C'est très amusant. Par contre, se faire renverser, on s'en prend plein dans le nez, on se fait enlever les bretelles de bikini, c'est très désagréable.
Ça fait mal. Au Brésil, il y a des grosses vagues, ça fait mal.
Et en plus, on se fait mal. Voilà. dans la vie, il y a des vagues. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait on peut être différente et avoir des vagues différentes dans nos vies, mais finalement on a toutes la même leçon à prendre, c'est plonger dans la vague et arrêter d'essayer de lui résister. Moi j'ai pas vécu ce que peut-être certaines lectrices vivent, c'est-à-dire la vague d'un célibat qui s'éternise un petit peu et puis qui devient un petit peu long. Par contre, j'ai vécu une autre vague, c'est de devenir maman assez jeune. J'ai eu deux enfants à 26 ans, et voilà, comme 10 x 2, complètement submergée. Il y en a d'autres pour qui la vague, des soucis dans le domaine conjugal, il va y avoir des vagues professionnelles, il va y avoir toutes sortes de vagues. Et finalement, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup à apprendre les unes des autres, peu importe la saison de la vie dans laquelle on est. Finalement, quand on apprend à... Pardon ?
Pour moi, j'allais dire les vagues que peuvent rencontrer les femmes comme moi, célibataires encore. C'est aussi celle où je pourrais plonger, c'est par exemple quand il y a le mariage des personnes, de femmes autour de moi, des copines, des cousines, ou quand il y a des femmes autour de moi qui ont des enfants. Bah, plonger dans la vague, c'est vraiment sentir ce que ça me fait. Au lieu d'être là à me dire c'est pas possible, je suis jalouse, pauvre de moi, de dire mais moi je le veux aussi, moi je le veux, de sentir ce que ça me fait. De sentir que je commence à baliser parce que je vois les années qui passent, que moi je reste en plan. Et c'est ça, moi j'ai une façon de plonger dans
la vague. Exactement. En fait, plonger dans la vague, c'est la première étape, c'est ça. On ne va pas la nier. Et comme tu dis, on va vraiment se reconnecter avec nos émotions, avec ce que ça nous fait, avec quelque part la souffrance qu'elle génère en nous, peu importe la nature de cette vague. Et plonger, en fait, c'est une action. C'est-à-dire mettre en place des choses concrètes dans ma vie, dans ma journée, dans mon quotidien, pour commencer comme à collaborer avec cette vague, plutôt que d'essayer de lui résister. Ça peut prendre plein de formes différentes, mais par exemple, là je me sens comment ? Je nomme comment je me sens. Je me sens submergée, je me sens jalouse, je me sens envieuse, je me sens en colère. Je me sens victime, je me sens... Voilà, peu importe comment je me sens, ok, j'accepte, c'est comme ça que je me sens. Maintenant, comment est-ce que je vais faire face à cette angoisse ? Qu'est-ce qui va me reconnecter à moi-même ? Ça va être... Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être... j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de m'offrir un week-end dans une ville, j'ai envie d'aller voir tel ami... je plonge dans la vague. Je suis célibataire, oui c'est vrai, je m'ennuie, mais en même temps j'ai du temps. Alors qu'est-ce que je peux faire? Dans mon cas, je suis maman, j'ai absolument plus de temps, j'arrive plus à m'en sortir. Mais en même temps, moi maintenant je les ai, ces enfants, donc comment est-ce que je peux plonger dans cette vague pour que au moins le temps que je passe avec eux soit sympa? Donc je vais mettre en place des nouveaux jeux à faire ensemble, ou je vais me bloquer une heure où on va lire des histoires, ou voilà, c'est des exemples peut-être un peu bidons, mais mettre en place des actions concrètes, des rituels, voilà, justement. Allez sur le site des Fabuleuses pour lire le super article de En couple Simone. Et puis après, en fait, réaliser que cette vague-là, c'est mon opportunité, c'est ma chance. Finalement, plus je vais lui résister, moins je vais accepter qu'elle soit là, et plus elle va me renverser, parce qu'elle va venir une fois, deux fois, trois fois, dix fois, j'aurai à peine le temps de me relever qu'elle va déjà me renverser. C'est-à-dire qu'il y a des, pour reprendre ton exemple des mariages des copines, ben, il y a certains étés où vous allez être invité à 10 mariages, et vous allez faire vous renverser à chaque fois. Mais finalement, quelle est l'opportunité qui se cache derrière? Alors, je connais pas l'opportunité pour chacune des celles qui vont nous écoutent.
Mariage.
Pardon?
Il y a des tonnes. Le mariage d'une copine, c'est l'opportunité pour rencontrer son âme.
Ben, complètement.
Il y a des gens qui rencontrent leur mari pendant un mariage.
Complètement. Donc, finalement, la tente de face, c'est « Oh là là, je suis la seule, qu'est-ce qui cloche chez moi? J'en ai marre, toujours des mariages des autres, jamais moi. » Surfer sur la vague, c'est « Ok, super, j'ai une occasion géniale de me faire toute belle, de sortir ma plus belle robe. Avec qui est-ce que j'ai envie d'aller parler? J'ai envie de passer une super soirée, j'ai envie de m'éclater. Tiens, en plus, il y a machin qui est là-bas, j'avais déjà repéré celui-là, elle a l'air super sympa. Allez hop, je lance une conversation, voilà. » Je sors sur la vague et j'essaye de voir cet événement ou cette frustration non pas comme quelque chose à éviter absolument, mais comme une possibilité, une opportunité, comme le font les surfeurs qui profitent comme de cet élan pour surfer dessus. C'est une autre manière pour parler de ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai du mal à gérer une situation, soit je la laisse me mettre par terre, soit je rassemble toute l'énergie qui est générée par cette émotion, même si c'est une émotion négative, mais je l'accepte, je rassemble l'énergie que ça crée en moi, et puis je surfe dessus. Voilà le message que j'ai envie de leur laisser. Plonger dans la vague.
Et tu fais en sorte de...
Et je fais en sorte de plonger dessus, de surfer dessus, de surfer sur la vague.
Super, j'aime beaucoup que tu dises ça. Merci, mille merci.
Il reste qu'à te remercier.
Et mais avec plaisir, merci beaucoup à vous. Merci pour votre confiance et merci pour votre super travail.
Moi, je suis très sensible à tout ce que tu nous partages de ton parcours, en fait, de ton authenticité. Voilà.
Ah ben merci. Merci. L'authenticité, c'est le meilleur service qu'on puisse se rendre à soi-même et qu'on puisse rendre aux gens autour de nous, vraiment. Donc, soyons tous authentiques.
je trouve qu'il y a une petit air de ressemblance. Quand je t'entends, je dis tiens, ça se ressemble un peu à notre chez nous, à notre maison. Il y a quelque chose de ce désir d'être vivant. Je te dis, vivante, Hélène.
Eh bien, merci. Merci beaucoup. Je le prends pour comme un vrai bon compliment. J'aime bien ça. J'aime bien être vivante.
Merci beaucoup, Hélène.
Merci beaucoup à vous.